radio de la paix. Il est 12h. Le journal de midi. Mardoché Kouassi. C'est l'heure de la grande édition de la mi-journée sur Radio de la Paix. Madame, Monsieur, voici les dominantes de l'actualité. La recommandation du Comité des droits de l'homme des Nations Unies demandant à l'État de Côte d'Ivoire de garantir des droits civils et politiques de Laurent Gbagbo, président du PPACI, n'est pas contraignante. C'est le docteur en droit administratif Landry Aoussou qui l'a indiqué dans une analyse à suivre dans ce journal. Les producteurs d'anacarde de Bengoro dans la région du Ouadougou peuvent en faire espérer. Leur stock de noix de cajou ont trouvé preneur après plus de 5 mois d'attente. Hors de chez nous, au Moyen-Orient, l'ONU a officiellement déclaré ce vendredi l'état de famine à Gaza après des mois de mise en garde contre une famine dans ce territoire ravagé par la guerre. Et puis l'invité de la rédaction de ce vendredi midi est David Sylvan, professeur affilié à l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Au micro de Christelle Yesso, il fera le point des récentes rencontres du président américain Donald Trump avec les parties prenantes de la crise russo-ukrainienne. Mais avant, vous aurez le dossier d'actualité proposé par Frédéric Konaté, portant sur un double atelier de formation et de sensibilisation des populations de la région d'Inzi sur les méfaits de l'orpaillage illégal. Voilà pour le sommaire. Radio de l'Appel 12h, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, faisant suite à la saisine de Laurent Gbagbo, a demandé mercredi dernier à l'État de Côte d'Ivoire de garantir des droits civils et politiques du président du PPACI. Une recommandation onusienne non contraignante, selon le docteur en droit administratif Landry Aoussou, qui insiste sur la primauté du Conseil constitutionnel ivoirien pour les élections présidentielles. On l'écoute.
Le Conseil constitutionnel ivoirien est le seul qui décide de façon souveraine qui pourra compétir ou non à la magistrature suprême. Elle n'a pas d'instruction à recevoir d'une organisation internationale, suite à l'ONU.
On voulait juste savoir si cette décision est contraignante.
Non, elle n'est pas contraignante, pas du tout. Concernant les élections présidentielles, nous avons une seule institution, une seule, c'est le Conseil constitutionnel. L'ONU, effectivement, c'est une institution effectivement qui jouit d'un certain prestige, mais qui n'a pas vocation à s'immiscer dans les affaires internes des États. En tout cas, concernant les élections présidentielles, elle ne peut qu'avancer qu'avec des recommandations. Effectivement, pour la paix, elle dit, bon, écoutez, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que tout le monde soit sur la liste? Voilà le souhait qu'elle émet. Mais en aucun cas, il s'agit ici d'une position contraignante. C'est là la difficulté. Il reviendra aux Ivoiriens de puiser en eux-mêmes les conditions d'une paix durable. Est-ce que cette paix passe par l'inscription des noms de ces candidats? Ce sera au gouvernant d'en décider. Pour l'heure, l'ONU est dans son rôle. Elle exhorte les uns et les autres, effectivement, à timorer leur position. Mais en aucun cas, il s'agira d'une injonction.
Landry Aoussou, docteur en droit administratif, joint par Constant Maïlé. Un tour en province, précisément à Kotolo, dans la commune de Dabakala, où s'est tenue la 3e édition de la fête des Ignames. Une tribune saisie par les fils et filles de la localité pour s'engager à plus de cohésion et de paix pour booster le développement. La cérémonie qui avait pour thème « Développement agricole participatif vers une société rurale solidaire » était placée sous la présidence du ministre Ibrahim Khalil Konaté et le parrainage de Jean-Claude Kouassi, ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Joseph Assalé nous appelle de la région du Bekin.
Au-delà de la réjouissance que revêt la fête des Ignames à Kotolo dans le département de Dabakala, le président de la mutuelle Plewignon du dit village en la personne de Ouattara Mathieu a pris cet engagement.
Créer une harmonie entre les filles et les fils du village pour que nous puissions nous entendre pour une Côte d'Ivoire meilleure et prendre des décisions pour le développement du village.
Ce développement local ne peut être possible qu'à une seule condition, a recommandé cette dame cadre de Kotolo.
Ouattara Pona Olan Rosine, terre toutes nos idéologies politiques, tous nos clivages, que véritablement nous fassions table rase de cela pour regarder dans la même direction pour que le village puisse avancer. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce village.
Le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, parrain de la 3e édition de la fête des Ignames à Kotolo, ne dit douter outre mesure de la volonté des fils et filles du village à s'unir pour une communauté de destin. Jean-Claude Kouassi.
Nous n'avons aucune aucune inquiétude. Nous sommes persuadés que nos parents savent ce que la paix apporte. La paix, c'est l'autre nom du développement, en fait. Et donc, sans la paix, on ne peut pas réaliser tous les progrès qui ont été réalisés dans ce pays. Grâce au président de la République, le président Alassane Ouattara, nous ferons plus, nous ferons mieux pour nos parents.
Pour joindre l'acte à la parole, il a offert deux broyeuses aux femmes de Kotolo pour accompagner leur initiative d'autonomisation. Joseph Assalé, Kotolo, département de Dabakala, Radio de la Paix.
L'actualité en région, c'est également à Bodokro, dans la région du Gbeke, où les populations rurales sont confrontées à un manque criard d'eau potable. Pour pallier à cet état de fait, un cadre de la région vient de réaliser 55 points d'eau dans plusieurs localités. Profitant de la cérémonie officielle de remise de ses équipements, il a invité les populations à l'union, à la cohésion et à la paix, gage d'un développement harmonieux. Maxime Kouakou.
Le besoin vital que j'ai commencé à toucher, c'est de l'eau. Il y a des locataires qui ne pratiquent pas d'eau, qu'il faut faire des forages. À ce jour, nous pouvons citer au moins 55 pompes en motricité humaine, électrique, des forages qu'on a pu faire dans le Gorge. Il y a beaucoup qui reste à faire parce que Bodokro souffre d'infrastructures routières telles que le bitume. Le bitume contribue, n'est-ce pas, au développement de la région par le coulement facile de nous protéger le commerce. Mais à ce jour, Bodokro n'a pas de bitume. L'accès est difficile pour pouvoir écouler les produits. Souvent même nos parents, nos mamans ont des vivriers qui périssent dû, n'est-ce pas, à l'état défectueux des routes qui ne permettent pas de couler rapidement les produits. On a une potentialité, n'est-ce pas, en vivrier à Bodokro. Même en culture pérenne telle que l'anacarde, à l'heure où je vous parle, il y a des produits anacarde qui sont encore dans les maisons par manque d'évacuation. S'il n'y a pas de paix, on ne pourra pas continuer nos œuvres. Ça sera peine perdue. Cultiver, n'est-ce pas, la cohésion et la fraternité afin que nous puissions développer ensemble notre contrée. Parce que la guerre n'arrange pas. Pendant la guerre, tout est et on ne pourra pas faire du développement.
Maître Maxime Kouakou était au micro de Joseph Assalé, correspondant à Radio de la Paix dans le Gbeke. Allons à présent à Gbengoro, dans la région du Ouro-Dougou, où les producteurs d'anacarde peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Après plus de 5 mois d'attente, leur stock de noix de cajou ont trouvé preneur. Les précisions d'Ibrahim Komara.
À Gbengoro, c'est un vent de soulagement qui s'ouvre sur les producteurs d'anacarde. Ce lundi, le président de la 2 ATU, Soumaoro Ablaye, s'est rendu sur place pour procéder à l'enlèvement des produits, marquant une étape décisive pour ces agriculteurs longtemps confrontés à l'incertitude. Parmi les voix qui s'élèvent, celle de Memo Koulibaly, fils du chef du village.
Oui, bon, il faut dire que vraiment, on avait toujours l'espoir, puisque quand l'État parle, l'État aussi ne se contredit pas.
Les producteurs qui avaient conservé leur récolte dans l'espoir d'un meilleur prix commençaient à craindre des pertes liées à la qualité et au surfage prolongé. L'intervention de la 2 ATU vient donc à point nommé avec un message fort. Valoriser le travail des producteurs et renforcer la confiance dans la filière. Autre voie importante de cette opération, celle du président de la 2 ATU, Ablaye Soumaoro, venu honorer ses engagements. Ablaye Soumaoro.
Nous sommes là pour payer la noix de cajou au prix de 425. Nous donnons l'assurance aux producteurs d'anacarde qui font la qualité.
À Gbengoro, les visages sont détendus, les magasins se vident et l'espoir renaît. Une opération qui, au-delà de l'achat, symbolise le lien entre les acteurs du terrain et les structures d'encadrement. Une dynamique à renforcer pour une filière plus équitable. Ibrahim Komara, Séguéla, Radio de la Paix.
On pose à présent nos valises à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, où s'est tenu du 18 au 20 août dernier l'atelier de lancement du processus d'élaboration d'une stratégie nationale de transition écologique, une initiative du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, avec l'appui technique et financier de l'OIT, Organisation internationale du travail. En ligne de Yamoussoukro, Émile Yao.
Selon Assaoré Konanja, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, la Côte d'Ivoire est confrontée à une urgence climatique qui exige un changement de cap immédiat.
Notre couvert forestier est passé de 7 millions d'hectares à moins de 2,9 millions aujourd'hui. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 25% selon la Banque mondiale. Si rien n'est fait, les pertes liées aux inondations, aux sécheresses, aux érosions côtières pourraient atteindre 3% du PIB d'ici 2030. Et 1,630 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté.
Pour anticiper et relever ces défis, l'adoption d'une stratégie nationale de transition écologique, inclusive et participative, s'impose comme une solution incontournable.
La stratégie nationale de transition écologique sera le cadre directeur qui guidera toutes nos politiques publiques, nos investissements et nos choix économiques. Elle doit viser à atteindre la neutralité carbone à long terme.
Jean-Marie Kagabo, représentant la directrice au pays de l'Organisation internationale du travail, Bureau Abuja, a souligné la nécessité de créer un cadre favorable pour promouvoir une transition juste en Côte d'Ivoire.
Il est urgent de développer des systèmes de protection sociale qui accompagnent les politiques de lutte contre le changement climatique afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte.
Le ministre Assaoré Konan-Jacques a rappelé que cette transition écologique ne doit pas se limiter à une simple politique publique, mais constituer un héritage durable pour les générations futures. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Autre lieu, autre atelier, c'est celui destiné à l'évaluation de la mise en œuvre des indicateurs de l'état de conservation de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, partagé entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, qui s'est tenu récemment à Danané. La rencontre a réuni plusieurs experts et personnes ressources de gestion de l'environnement et visait à mesurer les progrès accomplis en vue du retrait du site de la liste du patrimoine mondial en péril, inscrit à l'UNESCO depuis 1981. Le point des travaux avec Stéphane Adams depuis la région du Tonkpi.
Le Mont Nemba, qui abrite une biodiversité unique avec des espèces emblématiques, figure depuis 1992 sur la liste en péril en raison de pressions persistantes, exploitation minière, braconnage, agriculture extensive et bien d'autres. Enseignants-chercheurs et instituts de recherche des deux pays, la Côte d'Ivoire et la Guinée, veulent inverser la tendance qui a nécessité des travaux de réflexion à Danané. Le directeur de la zone ouest de l'OIPR, le colonel Zanou Moïse, en résume l'essentiel des travaux.
Nous avons passé en revue les différents indicateurs pour voir où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc nous sommes dans une bonne dynamique. Vraiment, nous pensons qu'il y a vraiment de l'espoir. Nous bénéficions de différents financements, dont le financement du Fonds du patrimoine mondial pour pouvoir élaborer le plan directeur d'aménagement et de gestion de la réserve. C'est un financement porté à la fois par le CIGINS et l'OIPR. C'est dit que nous travaillons en symbiose pour pouvoir atteindre les résultats escomptés.
Le directeur général de CIGINS de la Guinée, le colonel Bilovogui Oua Justin, salue l'initiative prise en ces termes.
Les parties guinéennes et ivoiriennes sont vraiment au beau fixe parce que déjà nous sommes habitués à des choses qui nous montrent que nous sommes en train d'aller vers le retrait parce que nous faisons le suivi écologie, beaucoup d'autres activités et les documents aussi sont concordants. Nous échangeons, il n'y a pas de frontières.
Au-delà des échanges techniques, l'atelier a permis de renforcer les liens entre délégations ivoiriennes et guinéennes. Danané, Stéphane Adams, Radio de la Paix.
Hors de chez nous au Moyen-Orient, l'ONU a officiellement déclaré ce vendredi l'état de famine à Gaza. Une annonce qui intervient après des mois de mise en garde contre une famine dans ce territoire ravagé par la guerre. Selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, un organisme basé à Rome, cette famine devrait s'étendre au gouvernorat des Deir el-Bala et des Ranouniest d'ici fin septembre. On en vient à présent à notre dossier d'actualité avec l'ONG Clucode, qui a organisé le 22 juillet dernier, en collaboration avec le PromoPEF, un double atelier de formation et de sensibilisation des populations de la région d'Unzi sur les méfaits de l'orpaillage illégal. C'était dans la sous-préfecture de Djangokro, dans le département de Dimbokro. C'est un dossier de Frédéric Konaté.
La circonscription administrative de Djangokro, dans le département de Dimbokro, fait partie des zones les plus affectées par le phénomène de l'orpaillage illégal. C'est donc à juste titre que le sous-préfet de la localité a salué l'initiative de l'ONG Clucode tout en invitant les participants à s'approprier les résolutions de cet atelier. Coutouan Magloire, Yves Thierry.
J'invite les participants à s'approprier cette campagne de sensibilisation des populations sur la lutte contre l'orpaillage illégal dans la sous-préfecture de Djangokro et à se faire ambassadeur des éléments de réponse qui seront communiqués auprès des diverses populations.
L'orpaillage illégal, de plus en plus récurrent dans la zone, affecte négativement la vie des populations, nous dit Touré Moussa, le chef de projet de Clucode.
Ce phénomène aujourd'hui est véritablement devenu comme un défi, défi économique, défi sécuritaire, défi foncier culturel, défi social et défi sanitaire.
Depuis des mois, l'ONG Clucode sillonne la région du Nzi dans le cadre de la lutte contre le fléau. Tal Lassina est le coordonnateur général.
L'orpaillage illégal met en cause plusieurs secteurs, notamment au niveau environnemental. On a des impacts négatifs avec la déforestation, la détérioration des sols à travers l'utilisation des produits cyanure et le mercure. Et aussi au niveau sanitaire, on constate déjà l'impact au niveau des eaux qui sont polluées. On constate aussi des cas de maladies qui sont provoquées par le mercure et le cyanure.
Face à la gravité des conséquences sociétales de cette activité illégale, Madame Aké, membre de l'ONG Clucode, met en garde les chefs de village qui favorisent l'orpaillage illégal dans leur zone.
L'orpaillage illégal, toi Nana, tu donnes la terre. Et puis, quand ils viennent là, ils prennent vos femmes, ils engrossent vos filles, ils sortent vos enfants de l'école. Et toi, ta dignité est bafouée.
Conscient des dangers liés à la pratique de l'orpaillage illégal, les participants se sont engagés à être des ambassadeurs auprès des populations aux sorties de l'atelier. Nana Ngaï Pendrin, chef de tribu des Sakiaré, et Nzi Antoinette, président des coopératives minières de Bourré et Tienkourou, sont formels.
Ceux qui n'ont jamais compris le danger que nous courons avec cette histoire d'orpaillage, ceux-là, aujourd'hui, ils ont compris.
Je sensibilise mes frères et sœurs de rentrer dans l'égalité.
Chaque année, la Côte d'Ivoire perd 100 tonnes d'or et 7 000 milliards du fait de l'orpaillage illégal. Frédéric Konaté, Dimokro, pour la Radio de la Paix.
Terminons cette édition avec notre invité du jour, David Sylvan, professeur affilié à l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat et professeur émérite au Graduate Institute de Genève. Il fait le point des récentes rencontres du président américain Donald Trump avec Vladimir Poutine en Alaska, puis avec Volodymyr Zelensky à Washington, accompagné d'une délégation de l'Union européenne. David Sylvan est interrogé par Christelle Yesso.
Bonjour, Monsieur Sylvan.
Bonjour.
Alors, rencontre entre Donald Trump et Zelensky, Donald Trump-Poutine. Déjà, quelle perspective diplomatique se dégage après qu'aucun cessez-le-feu n'a été conclu lors du sommet d'Alaska entre Trump et Poutine?
Comme vous le savez, il n'y a pas encore donc un cessez-le-feu. Et à vrai dire, Trump a commencé donc le règne avec Poutine à l'Alaska en pensant qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu. Ensuite, il s'est changé d'avis presque complètement et maintenant poursuit ce qu'il appelle donc la paix. Et donc pour l'instant, ce qui se passe, c'est que en principe, il devrait y avoir une réunion entre Poutine et Zelensky. Ça, je doute que ça aurait lieu, mais ça, c'est autre chose. Et si, donc, suite à cette réunion, il y a la possibilité d'arranger quelque chose, on peut l'appeler donc la paix, si vous voulez. Mais, par exemple, à la Maison-Blanche, on a beaucoup insisté sur la notion d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire donc les Européens ont beaucoup insisté, Trump n'était pas vraiment d'accord. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment un accord, même pour les prochaines étapes. En principe, il devrait y avoir, comme j'ai dit, donc une réunion entre Poutine et Zelensky, peut-être avec Trump, mais ce n'est pas encore décidé, c'est pas encore sûr. Et ensuite, on ne sait rien sur, donc, sur le contenu de cette négociation. Par exemple, Poutine a exigé qu'il peut donc s'arroger beaucoup de territoires ukrainiens. Zelensky a refusé. Il faut à un moment donné décider qui à suivre.
Justement, il y a eu la rencontre entre Donald Trump et Zelensky et aussi qui était accompagné de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre-là?
Bon, d'une part, vous savez, les Européens s'y sont rendus exactement parce qu'ils avaient peur qu'autrement Trump se rangerait aux côtés de Poutine. Donc, ils voulaient donc appuyer fortement Zelensky et l'Ukraine. C'est pour cette raison qu'ils étaient donc présents. Donc, en principe, l'idée de la réunion était d'explorer la piste de faire une paix éventuelle avec évidemment ce qu'on appelle des garanties de sécurité, c'est-à-dire donc l'envoi des soldats afin que, par exemple, si les Russes traversaient les lignes de démarcation en Suisse, ça déclencherait donc une réponse armée. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que ça, c'est complètement prématuré pour l'instant. On n'a même pas donc une décision sur quel territoire a cédé, sur si oui ou non il y aurait donc une réunion avec Poutine et Zelensky ensemble. Donc c'était quelque chose de préalable et effectivement ce qui s'était passé. Donc les Européens étaient présents pour essayer de convaincre Trump de faire un peu marche arrière et donc d'appuyer plus fortement l'Ukraine.
Est-ce que vous pensez que la présence des Européens a influencé quand même les décisions de Trump?
Il n'y a pas vraiment une décision de Trump. D'une part, Trump voulait convaincre les Européens effectivement à appuyer cette décision donc de céder le territoire, par exemple, ukrainien à la Russie. Les Européens, en revanche, voulaient donc convaincre Trump à vraiment arranger un cessez-le-feu immédiat parce qu'ils craignent autrement qu'entre-temps, les Russes prennent de plus en plus de territoire. Donc, pour l'instant, il n'y avait pas vraiment un accord, OK? Il y a simplement un accord pour continuer le processus.
Et donc, vous le disiez tout à l'heure, au cours de la rencontre de lundi, Trump a annoncé une rencontre entre Poutine et Zelensky et le président russe.
Il a plutôt annoncé qu'il pensait que ça serait une très bonne idée, OK?
Il a juste énoncé une idée.
Il n'a pas encore pu le faire, oui.
Donc, c'est juste une idée. Mais d'après ce qui est ressorti dans les médias, le président russe se dit prêt à recevoir son homologue ukrainien. Vous pensez que de là pourrait ressortir quelque chose de bon?
Peut-être c'est le cas. Mais encore une fois, il faut vraiment méfier tout cela. C'est pas que forcément il monte, mais simplement le fait que avoir une réunion en soi n'est pas vraiment un accord. Ce qui compte serait évidemment le contenu de cet accord. Ça veut dire, par exemple, si les Ukrainiens sont prêts à céder certains territoires aux Russes, lesquels? Et du même coup, par exemple, si les Russes sont prêts vraiment à arrêter les combats, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qui compte, c'est les détails. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment les détails. On a simplement le souhait de la part de Trump de tout arranger. Parce que derrière cela, il est d'une part désengager les États-Unis de l'Ukraine et de l'Europe plus généralement. Deuxièmement, restaurer un certain équilibre, une certaine amitié entre les Russes et les Américains. Les Russes sont ravis de cela, les Européens sont vraiment méfiants, donc ça, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. C'est un jeu de cache-cache, en quelque sorte.
Donc, pour le moment, chacun émet des hypothèses. Rien n'est encore clair et le jeu continue.
Rien, absolument rien. Voilà, exactement.
Merci beaucoup, Monsieur Sylvain.
Merci à vous.
Christelle Yesso recevait là David Sylvain dans le cadre de l'invité de la rédaction qui met fin à ce journal, mais on rappelle les titres. La recommandation du Comité des droits de l'homme des Nations Unies demandant à l'État de Côte d'Ivoire de garantir les droits civils et politiques de Laurent Gbagbo, président du PPACI, n'est pas contraignante. C'est le docteur en droit administratif Landry Aoussou qui l'a indiqué dans une analyse. Hors de chez nous au Moyen-Orient, l'ONU a officiellement déclaré ce vendredi l'état de famine à Gaza après des mois de mise en garde contre la famine dans ce territoire ravagé par la guerre. L'information revient à 15h sur la radio, mais tout de suite la revue de presse de Ghislain Koulibaly.
Bonjour à toutes.